Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute.
Littérature.
Arnaud Laporte.
Autour de moi ce soir, Raphaël Léris, Laurent Nunez et Philippe Chevillier pour parler ensemble de Dans la maison d'Emma Becker chez Flammarion, Je reste roi de mes chagrins de Philippe Forest chez Gallimard, L'été meurt jeune de Mirko Sabatino chez De Noël, et il y aura un coup de cœur de Raphaël Léris pour L'ami de Ségrid Nunez chez Stock. Nous ouvrons cette dispute avec Dans la maison d'Emma Becker, chez Flammarion, un des livres très remarqués de cette rentrée littéraire, un livre qui figure d'ailleurs sur la liste de nombreux prix, qui en a déjà reçu deux, peut-être plus, c'est difficile de faire le compte, il y a quand même beaucoup de prix littéraires dans notre pays. Le livre autobiographique raconte les deux années durant lesquelles Emma Becker s'est prostituée dans les maisons closes à Berlin. Rappelons que la prostitution est légale en Allemagne. C'est une suite de scénettes, de portraits, mais aussi une introspection à laquelle se livre l'autrice. Avant la maison, la narratrice avait débuté sa carrière dans une autre maison, le manège.
En rentrant chez moi, j'avais déjà, vissé dans la tête, un catalogue de peurs plus ou moins légitimes, plus ou moins fondées. J'avais toutes les cartes en main pour ne plus jamais revenir. Pourtant, j'y suis retournée le lendemain, et le surlendemain, et quasiment tous les jours pendant deux semaines. Car en un soir, j'avais saisi tout ce qui avait inspiré des ouvrages si tristes sur la prostitution. Et par fierté, parce qu'il était hors de question que je ponde un bouquin naïf ou misérabiliste, ou pis, un bouquin qui n'aurait effleuré qu'une facette de ce travail, je me suis persuadée qu'il y aurait quelque chose de beau ou de drôle à écrire, même s'il fallait racler le fond du fond. J'espérais que ma voix rendrait humaine la réalité de la prostitution, parce que les livres ont ce pouvoir, même si moi seule me battais pour ce mensonge-là. Si je n'avais jamais connu le manège, je n'aurais pas pu apprécier la douceur de la maison qui a donné à ce livre un éclairage nouveau. Et si je m'étais entêtée, si j'étais restée au manège aux côtés de Milo, et de son harem aux yeux blessés, j'aurais écrit un livre terrible, déjà lu mille fois.
Voilà cet extrait de Dans la maison d'Emma Becker, lu par Aïssa Toundoï. Un premier tour de table, Laurent Nunez.
C'est un livre qui promettait beaucoup, ce qui veut pas dire qu'il promettait les choses bien, hein, qui promettait beaucoup avec son, avec le projet, enfin ce qu'il a fallu faire pour l'écrire, et qui se révèle pour moi assez banal.
Bon, Raphaël Léris.
C'est un livre que j'ai trouvé trop long, foutraque, bordélique forcément, mais que à mon corps défendant, j'ai plutôt aimé.
Philippe Chevillier.
Moi, j'ai trouvé que c'était un passionnant récit transgressif sur la prostitution, la sexualité, les rapports hommes-femmes en plan rapproché.
Très rapproché. Alors, évidemment, j'ai choisi cet extrait qui ne se situe pas du tout au début du livre pour entendre quand même la raison d'être de ce livre, en tout cas tel qu'énoncé par Emma Becker, ce projet-là. Pourquoi elle va vivre cette vie-là, comment elle l'envisage, et en même temps, il y a plusieurs occurrences, mais c'est pas ce qui est le plus récurrent dans le livre, de la difficulté aussi à écrire pendant qu'elle fait ce travail-là. Et puis il y a aussi des réminiscences du passé, de liaisons passées, d'hommes qui l'ont conduite sur ce chemin-là, enfin des relations, pas les hommes. Enfin, si, c'est un peu quand même. alors, comme j'entends peut-être dans le propos de Raphaël Léris, un propos plus positif peut-être, je vais peut-être commencer avec vous, Raphaël. Alors, à votre corps défendant.
Mon corps défendant, oui, parce que donc ce livre arrive nimbé d'un peu de soufre, d'une espèce de storytelling général, transgression, cet auteur qui s'est lancé comme ça dans 2 années dans une maison close à Berlin. C'est bien précisé en 4e de couverture au cas où on aurait un doute sur la dimension autobiographique du texte, etc. Donc il y a cette espèce de petit frisson qui, moi, me laisse toujours un petit peu dubitative et à distance. Et puis je l'ai pris. Alors, la première phrase, j'ai failli refermer le livre parce que donc on commence, alors vraiment sur le syndrome, la maman et la putain, puisque ça commence avec son petit garçon qui est sur son lit maintenant, des années après qu'elle a quitté le bordel. Sauf que elle poursuit par quelque chose d'assez proustien sur la manière dont les odeurs la ramènent là-bas. Mmh. Et tout de suite, je trouve qu'on se rend compte qu'on a affaire à quelqu'un qui a un vrai projet littéraire, qui a des phrases d'écrivain. Alors, elles sont pas toutes réussies, mais qui a des vraies phrases d'écrivain, qui a un regard d'écrivain surtout. Après, donc, je trouve que ce livre est un peu trop long, qu'il est un petit peu mal fichu, enfin, assez mal fichu à plein d'endroits, qu'au fond, c'est pas tellement ce qu'elle dit sur la prostitution qui m'intéresse le plus. Justement ce regard qu'elle pose sur les situations, les lieux, les êtres. Il y a des très beaux portraits des femmes avec lesquelles, à côté desquelles elle travaille, qui pour moi font le vrai intérêt du texte. Son propos sur la prostitution, je le trouve difficile à saisir en réalité, c'est-à-dire qu'elle est pour la légalisation et pourquoi pas, mais elle est censée explorer ce que ça veut dire du désir féminin d'être une pute et donc d'avoir des relations sexuelles sans désir avec des gens et comment ça l'affecte ou pas. Et ça, je trouve que elle l'explore pas tellement. C'est pas du tout un texte pornographique. Alors ça, je pense que c'est important de le dire en préambule. Voilà. Donc il y a plein de choses que j'ai trouvées intéressantes et en fait surtout son regard. Je pense qu'elle aurait pu m'intéresser sur plein d'autres choses que sur la prostitution.
Le plus négatif dans ce premier tour de table, c'était Laurent Nunez, me semble-t-il, sur ce livre d'Emma Becker.
Oui, parce que c'est un livre qui se lit en effet sans déplaisir, mais on n'y apprend rien d'autre, parce qu'en effet c'est un livre c'est complètement apolitique, qui est cerné d'un étrange romantisme sur la prostitution, qui serait pas si mal. Et moi, ce qui m'a dérangé vraiment, c'est le projet, c'est-à-dire cette idée de que pour raconter quelque chose, il faut l'avoir vécu. Sachez que...
C'est pas dit comme ça.
Bah pourtant,
elle raconte quelque chose qu'elle a vécu. Il s'agit pas de dire, faut le vivre pour le dire.
Mais il a fallu. Mais tout le livre est construit dans cette idée que d'abord c'est le livre. C'est d'abord, il faut d'abord un livre.
Oui, ce que j'ai évoqué
tout à l'heure. Pour ce sujet de ce livre, il a fallu aller dans.
C'est sa démarche.
Aller dans cette démarche. J'y crois pas. C'est-à-dire que, vous savez, je suis désolé, on remonte. Assez longtemps, si on remonte à Homère, parce que ce combat-là...
Assez longtemps, non, mais oui, c'est, relativement.
Je convoque Homère pour ce livre, mais vous allez voir, en fait, c'est lié. C'est-à-dire que, déjà, chez Homère, il y avait cette question de est-ce qu'on doit raconter quelque chose qu'on a vécu ou pas. C'est ce qu'on appelle, chez les Grecs, l'autopsie. L'autopsie, c'est voir par soi-même. Et, normalement, chez les Grecs, on n'a pas le droit. C'est interdit. On peut raconter que ce qu'on a vécu. C'est finalement l'idée d'Emma Becker. Or, dans l'Odyssée, il y a une scène qui interrompt ça et qui ensuite ferait que dans la Grèce, on pourra raconter ce qu'on veut même si on l'a pas vécu. C'est Ulysse doit raconter la guerre de Troie et il la raconte à côté d'un aède, d'un poète, conteur, qui lui raconte des morceaux d'Homère lui-même. Et donc il y a l'aède qui parle et il décrit la guerre et Ulysse dit non, moi je sais, je l'ai mieux vécu. Parce que l'aide l'a pas vécu, lui. Et Ulysse la raconte et raconte sa version. Et ben, croyez-le ou pas, mais la version d'Ulysse qui l'a vécu est moins bonne que la version du poète aveugle qui ne l'a pas vécu. Donc voilà. Et ça, cette scène-là, elle a mis fin à ce désir d'autopsie en littérature, de ne pouvoir raconter que ce qu'on a vécu et tout. Et là, on arrive, 3000 ans après, à la même chose. C'est-à-dire que, pour pouvoir parler de la prostitution, on imagine une sorte de littérature gonzo, où on devrait y aller, se soumettre à des hommes, se féliciter d'avoir 4 ou 5 passes, de la propreté des... raconter une structure et se dire qu'on a été à côté des gens et que donc ce qu'on dit est véritable et véridique et que donc c'est faire œuvre de littérature. Et vous l'avez rappelé, c'est vraiment le projet du livre, c'est en 4e de couverture. C'est clairement
comme
ça.
Comme d'habitude, je ne l'ai pas lu. Bon, il faut que je le fasse.
Voilà, pour moi, c'est... c'est le contraire de la littérature. Bon. Ça commence comme ça. C'est pour ça que c'est le début de mon dégoût.
Après ce bref cours du professeur.
non mais voilà, je vais vous expliquer.
Homer à Emma Becker. Ça rime, plus c'est merveilleux. Philippe Chevillé, c'était la voix médiane de ce premier tour de table tout à l'heure.
Oui, moi ça me gêne pas, mais c'est peut-être mon côté journaliste, ce qui ressort. Ça me gêne pas qu'on fasse des bouquins à partir d'expériences vécues, du moment qu'ils sont bons. C'est pour dire ça. Ce qui me fascine quand même dans ce livre, c'est que finalement, on sait pas très bien justement si c'est le livre qui l'a poussé à se prostituer ou si c'est la prostitution qui l'a poussé à faire le livre. Et cette ambiguïté qui m'énerve un peu au début, finalement, je la trouve pas mal parce que ça nous décale un peu le roman. On parle plus au fait de la sexualité, de sa propre sexualité, de la sexualité féminine, au fond, que du thème principal. Après, moi, la chose qui m'intéresse, c'est ce que vous disiez, Raphaël, c'est les personnages. Mmh. Les filles, c'est intéressant, mais elles parlent aussi beaucoup des clients. Et c'est vrai que la façon dont elles en parlent, il y a des personnages qui sont quand même entre les clients qui tombent amoureux, les gros lourds, les sadiques. Parce que ce qui est bien aussi, c'est que au départ, on a l'impression que ça va être la petite maison dans la prairie de Berlin où tout est magnifique. Bon, on a quand même aussi elle nous parle assez longuement du manège, la première maison où elle va, qui est beaucoup plus aseptisée et puis tenue par des gens un peu louches. C'est pas non plus elle glorifie pas forcément les maisons closes. Donc voilà, on a un peu ce que j'ai bien aimé aussi, c'est des scènes où on s'échappe. C'est-à-dire qu'il y a la fameuse scène avec son jeune amant du début où le triolisme totalement raté. Ou la prostituée qui emmène un...
Elle offre une call girl à son amant pour ses 20 ans. Ça, c'est tout au début du livre.
Voilà. Et puis,
c'est un fiasco.
C'est un fiasco.
Au sens littéral.
Total, oui. C'est presque humoristique, ce passage-là. Il y a des moments où ça dérape un peu. Alors, pour le reste, je suis d'accord sur le fait que la construction est quand même un peu, ça part un petit peu dans tous les sens. C'est pas chronologique, bon ça on s'en fiche, mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'il y a un peu un décalage entre un style qui se veut quand même très très à la française, très élégant, etc., et une construction qui serait celle plutôt d'un récit journalistique. Donc ça fait une étrangeté. Journalistique ou autre, mais ça fait une étrangeté qui, au bout du compte, moi j'ai été vraiment intéressé par ce livre, qui est un objet un peu étrange, mais qui m'a plutôt plu.
Mais sur le style, moi c'est plutôt quelque chose qui m'a plu au début du livre, c'est-à-dire ce mélange quand même entre une langue qui se veut littéraire et qu'il est souvent, et des accès de trivialité. Je ne parle pas du tout des dialogues ou des situations, mais dans la phrase même. Et j'aimais bien ce frottement qui se produisait là dans l'écriture d'Emma Becker. Alors, c'est vrai que sur la distance du livre, c'était un peu plus compliqué. Et on a parfois des successions comme de nouvelles, et tout d'un coup, on repart sur la vie d'avant, et puis sur le projet. Donc, le côté foutraque, je l'entends bien, mais la dernière fois que j'ai dit qu'il n'y avait pas d'éditeur dans une maison, ça me poursuit toujours. Donc je vais pas le dire là, mais on peut quand même un peu penser qu'il aurait peut-être fallu, alors c'est pas son premier roman, rappelons qu'elle a déjà écrit deux livres précédents, qui ont eu d'ailleurs les deux premiers, ou le second en tout cas, un grand succès. Donc c'est pas une primo-romancière, Emma Becker. Pour autant, oui, Raphaël Leiris, la structure, elle nous gêne quand même tous, qu'on aime ou pas ce livre.
Bah, elle est gênante parce qu'en plus, elle brouille le propos, c'est-à-dire qu'il y a le manège qui surgit, et puis en même temps, elle veut absolument nous dire que la prostitution n'est pas que ça, et puis elle sait pas tellement où le mettre, et puis il y a des scènes qui sont pour moi les plus intéressantes, qui sont donc celles de la vie quotidienne au bordel, les moments où elle se prépare, où elle boit au café, elle papote. Et donc ça non plus, elle sait pas tellement où les mettre. Alors parfois ça fonctionne, parfois ça fonctionne pas, la manière dont elle agence son texte. Et effectivement, et puis je pense qu'il aurait fallu couper parce que peut-être comme une journée de passe ou à bout d'un moment on en a marre. Parfois c'est un petit peu long. Ce livre. Juste, je voudrais revenir sur ce que disait Laurent sur la question de l'expérience. Alors je suis pas du tout convaincue. Enfin, pas particulièrement convaincue par les premières pages qui nous démontrent que la prostitution est chez elle un sujet d'intérêt très antérieur à l'écriture du livre, que ça relève du fantasme sexuel de réel et qui la meut, donc qui est quand même ça au départ, et donc c'est aussi ça qui accompagne le texte. Oui, le gonzo journalisme, ça a créé un genre littéraire, et je vois pas pourquoi. Et il y a aussi ce qu'elle dit, c'est-à-dire qu'on a beaucoup d'écrivains masculins qui ont écrit sur les bordels, qu'à la Ferte, Zola, le mot nana revient tout le temps, d'ailleurs, c'est assez drôle pour désigner les filles, elles sont toujours des nanas. Et alors, elle veut écrire au nom des femmes et leur donner une voix. Bon, elle fait comme si Grésilie d'Israël n'avait jamais existé, ce qui est comme un peu étonnant, puisque c'est vraiment, je prends en charge cette parole-là en faisant comme si...
Lire le noir est une couleur, notamment.
Voilà. Magnifique auteur édité chez Vertical. Donc, et, une prostituée suisse qui a écrit des textes magnifiques, notamment sur la part sociale de la prostitution. Donc ça, je trouve que c'est un tout petit peu dommage de faire comme si elle était la première femme à le raconter. Mais en soi, comme démarche, dire on va faire taire les hommes deux minutes et le fantasme de la fiction et voir comment ça se passe à l'intérieur et ce que ça veut dire sur une psyché, un corps, etc. Moi, ça me semble être un projet très intéressant.
Laurent Nunez.
Le projet aurait été intéressant, mais moi, j'ai l'impression qu'elle l'a pas tenu dès les premières pages, page 21. Et tout d'un coup, je m'arrête, je me dis, il y a quand même pas marqué ça. Il y a marqué, elle écrit, je pense chaque fois, voilà des femmes, elle regarde les prostituées, voilà des femmes qui sont vraiment des femmes, qui ne sont même que ça. Ah, d'accord. Donc, tout d'un coup, il y a une sorte de sexualisation de la condition féminine qui est obligatoire, et ça, c'est pas un regard de femme. Ça, c'est une intériorisation du regard masculin dans une femme. Et d'ailleurs, ça se voit très clairement à la fin, on peut raconter la fin, le tout dernier chapitre. Elle ne parle pas au nom des femmes. Elle avoue qu'elle est dans une mauvaise passe et que son rêve, c'est d'être un homme. Et elle se met à raconter ce que ça aurait été si elle avait été un homme. Donc on voit clairement que là, elle parle pas du tout au nom des femmes. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, a intériorisé un discours masculin de fasciné par la prostitution et qui le redonne entouré de portraits attachants, c'est vrai, mais avec un regard assez biaisé.
Oui, de ce fait, c'est vrai que le regard, je vous donne la parole, Philippe Chevillier, tout de suite, mais c'est vrai que le regard d'Emma Becker, il est quand même toujours à distance. Elle a beau être parmi ses filles, alors je veux bien qu'elle soit l'étrangère, la française, au milieu des la plupart allemandes ou d'autres femmes de Mitteleuropa ou d'Europe de l'Est, mais il y a quand même toujours, moi c'est ce que j'ai senti aussi, toujours une... non pas un surplomb, mais une vraie distance entre elle et les autres. Et c'est presque un regard, c'est pas du male gaze, mais on n'en est quand même pas tout à fait loin chez Emma Becker, Raphaël Leris.
Bien sûr que si, c'est du ça, en tout cas, ça s'approche. Elle parle de son désir pour les corps de ses femmes. Enfin, c'est pas du...
Elle en parle très clairement,
et
mais
au-delà de ça. C'est une vision du corps vraiment tel que il est représenté chez les hommes. Voilà, très clairement, c'est pas un désir lesbien.
Non, pas du tout.
Ouais. C'est vraiment un désir d'homme, sur un regard d'homme porté sur le corps des femmes.
Philippe Chevillier.
Oui, mais quelque part, il y a ce désir, moi je trouve, de ce désir pour une sexualité qui est, justement, moi, à un moment donné, elle met pas de cloison. Elle a les mêmes mots de désir pour les femmes, et qui peut dire si c'est des mots d'hommes ou des mots de femmes, c'est des mots du désir, faut pas non plus. Ou alors on rentre dans une logique très moraliste et politique de l'analyse du livre, qui est d'ailleurs, elle le revendique, elle dit le sexe est apolitique. Alors on ne peut pas être d'accord, mais tout le livre...
On peut vraiment, je crois.
Mais c'est un parti pris, c'est-à-dire que elle justement... Alors, ça a un intérêt, c'est qu'elle évite de rentrer dans des débats qui seraient sans arrêt de se positionner par rapport à... Bon, elle le fait de temps en temps, mais de façon vraiment, elle le suggère, par rapport au discours réactionnaire sur le sexe ou par rapport au discours féministe qui condamne la prostitution. Elle ne se met pas dans ce cadre-là. Finalement, tant mieux, parce que ce qu'elle nous raconte, du coup, on parce que alors là, le livre, il aurait peut-être 200 pages de plus. et moi, je trouve que d'une certaine façon, avec ses maladresses, il y a une sincérité. Mais moi, j'étais intéressé par ce regard sur le corps, sur les actes sexuels, sur la porte tarifée, aussi sur ce que ça produit. En effet, secondaire chez les hommes et chez les femmes. Entre le docteur amoureux qui une nuit va voir ce qu'est devenu la prostituée qui a disparu et tout d'un coup qui se rend compte qu'effectivement il imaginait qu'elle pouvait m'aimer mais qu'elle l'a jamais aimé. C'est naïf, mais c'est quand même une belle histoire. Et puis l'histoire aussi de ces femmes qui vivent quand même qui cachent à leur mari qu'elles sont prostituées. Il y a quand même des moments où bon, peut-être qu'elle le fait de façon trop superficielle, mais moi je trouve qu'on apprend des choses. Alors là, c'est peut-être pas de la littérature, c'est juste peut-être simplement du document et du récit. Mais moi, ça m'a franchement intéressé.
Vous voulez dire un dernier mot, Raphaël Leris ?
Dans les choses qui m'ont intéressé, il y a cette statistique qu'elle donne en passant, qui est sur les 40 femmes du bordel ou les 50 femmes du bordel, il y en a 15 qui sont infirmières. Et ce qui est quand même vraiment très dans le sens de son récit, qui est celle du soin. Voilà, des femmes qui sont moins là pour le sexe que pour accompagner ces hommes dans leur manque de soins. Mais vraiment, je voudrais dire que... Au-delà de tous les désaccords que je peux avoir avec le texte et des réserves, il y a vraiment un regard d'écrivain qui est porté sur les situations.
Je vous suis là-dessus, Raphaël Léry. Dernier mot, Laurent Nunez.
Oui, une petite contre-programmation. Si on veut en lire un livre sur le bordel et ce que c'est de vivre dans un bordel, il y a un livre incroyable de Jacques Borel qui a eu le Goncourt en 65 et il a écrit en 97 un livre magnifique qui s'appelle L'aveu différé. L'aveu différé où il raconte comment il a vécu son enfance à l'Hôtel du Nord. Voilà, entouré de prostituées, c'est magnifique.
Dans la maison, c'est le titre du livre d'Emma Becker, publié chez Flammarion. Nous allons parler des livres de Philippe Forest, Mirko Sabatino et Sigrid Nunez.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Suite de cette dispute avec « Je reste roi de mes chagrins » de Philippe Forest chez Gallimard, nous sommes en Angleterre en 1954. Graham Sutherland doit peindre le portrait de Sir Winston Churchill, 80 ans cette année-là. Philippe Forest va mettre en scène, au sens quasi théâtral, cette rencontre bien réelle, et interroge les relations entre art et politique, notamment. Le tableau fit scandale en son temps, trop réaliste sans doute, montrant un vieil homme fatigué qui avait, par ailleurs, des velléités de peintre, comme on le dit dans ce prologue.
L'artiste n'a pas trop la tête à la théorie. En cette matière comme en toute autre, il fait profession de pragmatisme. Il pense qu'un peintre peut se dispenser d'avoir des idées. Il lui suffit de peindre sans trop se demander ni comment ni pourquoi. Un peu de métier est indispensable pour cela, mais le moins de philosophie possible. C'est mieux ainsi. Si on le lui demandait, il répondrait certainement qu'un tableau, banalement, n'est rien d'autre qu'une sorte de miroir. Il réfléchit le monde selon le tempérament de celui qui l'observe et qui en prend possession. Un peintre, surtout s'il est aussi un soldat, se lance toujours à l'assaut de la moindre parcelle de visible comme s'il s'agissait d'un territoire à conquérir. Et, situé chez lui, sous ses fenêtres, au beau milieu de son propre jardin, il se trouve que le bassin de Chartwell lui résiste. Il le nargue gentiment. L'heure de sa reddition ne sonne jamais. Le siège de cette minuscule forteresse s'éternise. Il se dit souvent qu'il n'en aura jamais raison.
Ce peintre-là, tel que lu par Boris Pinault du texte de Philippe Forest, c'est bien Winston Churchill. Premier tour de table, Raphaël Léris.
C'est une méditation d'une délicatesse et d'une intelligence qui m'a bouleversée.
Philippe Chevillier.
Alors pour moi, c'est un roman fort bien écrit, mais totalement désincarné, artificiel dans sa forme, et qui se cherche sans jamais se trouver.
Bim. Laurent Nunez.
Pour moi, c'est un grand livre, et je le sais parce qu'il m'a fait rêvasser de longues heures cette semaine, et ils sont rares, ces livres-là.
Donc vous le savez. Bah, écoutez, puisque vous le savez,
on peut passer à autre
chose. Commencez.
Avec plaisir. J'admire beaucoup Philippe Forest, et je le remercie de montrer que mon admiration va continuer encore longtemps. Philippe Forest publie « Je reste roi de mes chagrins », et pour ceux qui connaissent Philippe Forest, on entend quelque chose dans ce vers, j'allais dire ce titre, parce qu'en fait, c'est le décalque d'un vers d'Aragon, qui est imité d'un vers de Shakespeare, qui est « Je reste roi de mes douleurs ». Et la forme, c'est un livre qui est assez étrange, parce que il a une sorte de double fausse entrée. Il y a une sorte de paraphrase de l'Ancien Testament, où on perd un enfant, drame essentiel qu'a hélas connu Philippe Forest et qui se retrouve dans chacun de ses livres. Et on arrive un texte, on croit qu'un narrateur parle, et ce texte est tout d'un coup réexpliqué, redivisé, et on comprend qu'en fait, il y a une sorte d'acteur et un metteur en scène et ce livre est tout d'un coup complètement construit de manière qui étonne, qui surprend parfois. Et parfois, on se dit que c'est un peu complexe, c'est vrai. Il est découpé en actes, en intermèdes, etc. Et ça aussi, c'est pour ceux qui apprécient Philippe Forest et qui connaissent son œuvre, c'est extrêmement lié à un livre d'Aragon qui s'appelle Théâtre Roman, qui est le dernier livre d'Aragon. Et on est sûr que Philippe Forest le connaît, parce que Philippe Forest a fait une biographie d'Aragon qui est très bonne, mais surtout il a fait la notice de Théâtre Roman dans la Pléiade. Donc on est sûr qu'il le connaît. Et donc voilà, donc c'est lié à ça. Et dans la Pléiade, Philippe Forest notait que Théâtre Roman, c'était un roman trop complexe d'Aragon et qu'il n'aurait pas le succès mérité. Je peux dire à peu près la même chose de ce livre-là. C'est un livre assez incroyable, une sorte de bagarre entre deux hommes, entre deux styles, entre le théâtre et le roman, entre la pulsion très mortifère de la répétition. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a un titre qui est presque celui d'Aragon et qui n'est pas le même. Il y a une sorte de répétition qui est là, finalement on vit tous les mêmes drames. Tout revient, tout se répète, il y a l'humaine condition, et comment on fait pour s'en sortir? Et je pense que la forme de ce livre très original est là pour montrer la nouveauté. Voilà. C'est un livre sur la tension entre le répétitif et la nouveauté, et c'est assez bouleversant.
Mais ça n'a pas bouleversé Philippe Chevillier.
Non, et ça m'étonne d'ailleurs, parce que c'est tellement bien écrit, c'est tellement... Voilà. Moi, j'ai l'impression, donc je vais le faire de façon très très basique et très concrète, que ça part d'une fausse bonne idée. Parce qu'à la base, il y a un superbe épisode de The Crown, que j'ai vu sur Netflix, et qui m'avait moi aussi bouleversé, puisque c'est un moment où on voit, et il en parle d'ailleurs, Philippe Forest en parle au milieu de son livre, on voit Churchill et ce peintre, il y a toute cette scène qui est racontée avec cette invention du scénariste de Netflix qui se vont jusqu'à se confier sur la mort d'un enfant. On a donc ce formidable épisode, et ça peut donner effectivement forcément envie à un écrivain. Et on a l'impression dans le livre, il s'excuse tout le temps d'avoir pris cet argument en disant c'est une histoire éculée. Et autour de ça, évidemment, il y a l'idée du théâtre qui naît. Alors moi, c'est vrai que évidemment, Shakespeare.
Vous passez vos soirées au théâtre. Le monde entier. Pour ceux qui nous écoutent pas le lundi et qui ont bien tort, puisque nous parlons de théâtre avec vous régulièrement, Philippe Chevillier.
Et je trouve que cette façon de mettre en scène, on a l'impression d'une certaine façon que cette histoire qui est très belle, très simple, mais qui a déjà été racontée, la façon de la raconter autrement, c'est qu'il aurait trouvé ce gimmick qui est celui du théâtre. Alors effectivement, c'est plus référencé que je ne le dis comme ça, mais c'est l'impression que ça donne. Et moi, je trouve que cette entrée par le biais du théâtre, et qui en plus est un théâtre qui me paraît très très tradit, parce que pour le coup, lorsqu'il décrit le décor, on a l'impression d'être dans un théâtre très très vieux style, avec la découpe d'appartements. Non, c'est plus comme ça forcément le théâtre aujourd'hui. On a l'impression donc d'avoir une pièce de théâtre un peu plus sérieuse qui se déroule devant nous. Et derrière, on a un discours qui est assez joli sur la répétition, mais qui finit par venir, bon, métaphore, allégorie. Et moi, je suis resté agacé, totalement extérieur à chaque fois. Et je rentrais, alors je ferai des nuances tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est la première impression que j'ai eue. Et après, je me suis posé la question, parce que je ne suis pas le genre comme ça à être... Il y avait tout pour me plaire dans ce livre, et je suis resté totalement extérieur par cette théâtralisation, ce qui reste pour moi une théâtralisation d'un épisode de Netflix avec du beau style autour.
Désolé. Oui, mais vous avez d'autres arguments que vous développerez dans un instant. Raphaël Léris. On parle Je reste roi de mes chagrins de Philippe Forest.
Alors, je pense aussi qu'on lit tous avec ce qu'on est, des moments de nos vies, etc. Et voilà, en fait, moi, je l'ai pris. Et vraiment, ça m'a presque étonnée moi-même que ce texte, quand on le décrit, ça semble très froid, très intellectuel, etc. Ça soit un texte aussi fraternel et fraternel avec les écrivains qui l'accompagnent et qui le citent. Alors, plus ou moins directement, mais d'abord la présence de Shakespeare, moi, m'a enchantée en permanence. C'est quand même toujours une joie de lire 5 vers par-ci, par-là. Et fraternelle avec cette humaine condition dont il décrit plusieurs fois qu'elle est celle de chacun et celle de tous, que notre condition est celle de la perte et que bien sûr qu'elle va se répéter et pour nous et pour les générations suivantes. Et la manière dont il fait en sorte que le lecteur métabolise ça, moi, ça m'a bouleversée. Et j'ai trouvé que c'était un grand texte aussi brillant que profond et qui me touchait au cœur.
Reste quoi? J'attendais ce développement. Moi, je suis toujours, toujours, c'est vrai, hein, jusqu'ici, comme vous. Alors, on est toujours très émerveillé, admiratif et ému par les romans et les textes de Philippe Forest, même si j'ai eu quelques réserves aussi sur la construction, un peu comme vous, Philippe Chevillier, qui me semble parfois, alors ça c'est le côté structuraliste sans doute de Philippe Forest, qui me semble parfois presque casser l'émotion qui est pourtant là à chaque ligne, à chaque mot pour moi. Je suis très sensible. Les longs dialogues entre les deux hommes. Alors il peut les écrire même s'il les a pas vécus, parce qu'il n'était pas là, il me semble, Laurent Nunez.
Vous voyez, vous avez compris ce que je voulais dire.
Ouais, je l'utilise tout de suite. Mais vous savez, ça me fait penser à ce passage d'Homère. je trouvais qu'il y avait énormément de matière et je comprends que vous ayez rêvassé, parce que moi aussi ça m'a pas mal fait rêvasser. Philippe Forest, ça me fait toujours rêvasser, parce que ce désir rentrait. Moi, j'ai pas vu la série dont parlait Philippe Chevillé, et j'ignorais jusqu'à ce jour que Winston Churchill avait des velléités de peintre. Donc comme ça, je l'apprends et je trouve que ça donne une lumière sur la création, sur l'acte de créer, sur la répétition, sur l'impossibilité de transcrire le réel en art et en même temps la tentative sans cesse de le faire. Et ça, c'est quand même quelque chose que Philippe Forest travaille inlassablement depuis 20 ans maintenant, et à chaque fois d'une façon nouvelle. Alors c'est là que je comprends qu'il ait voulu cette forme théâtre-roman, donc je ne lui en veux absolument pas, même si pour moi il y a peut-être une toute petite distance supplémentaire qui s'instaure à cause de celle-ci. Mais Philippe Chevillé, tout à l'heure, a dit que vous vouliez modérer vos propos avant de redonner la parole à Laurent Nunez.
Oui, d'abord, j'ai trouvé que les parties, justement, du tout ce qui concernait les œuvres d'art, justement, enfin, et puis le Churchill face à son tableau, face à son étang, tout ça, là, je suis parti. Là, j'étais un peu dans le rêve dont nous parlons, et j'étais assez conquis. Et c'est une interrogation que je me posais sur ce discours qui revient de la répétition et de cette histoire qui est finalement, que nous connaissons tous la même histoire, et qu'elle se rejoint, finalement, et que c'est une histoire parmi d'autres et elle se conjugue, elle se répète. Cette répétition qu'il y a sans arrêt, je me demande si justement, dans ce que moi j'ai ressenti dans ce roman non abouti, c'est l'idée que finalement ça devient de plus en plus difficile de raconter des histoires parce que on converge tous vers la même histoire et que, je ne sais pas si c'est très clair, mais...
Oui, si, moi je trouve ça limpide.
Et donc que finalement c'est l'impossibilité, et c'est impossible parce que vraiment, encore une fois, quand on a vu l'épisode de Netflix, on comprend ce qu'il veut dire. On comprend ce qu'il veut dire parce que quand il dit, mais l'histoire est éculée, elle n'est pas éculée, il ne faut pas exagérer parce que tout le monde ne l'a pas vu, mais c'est de dire finalement cette histoire devrait me déclencher et on est obligé de la... J'ai l'impression qu'il est obligé de la décaler, de trouver un autre biais, encore une fois celui du théâtre. Et cette voie de théâtre-là, je ne la ressens pas comme un théâtre qui me plaît, moi. Ce n'est pas un théâtre qui me plaît. Je m'imagine, en plus, si ça devenait une pièce de théâtre, je crois que je n'aimerais pas tellement cette pièce.
Laurent Nunez.
Non, je crois que le dispositif théâtral, il est fait parce que pendant un long moment dans le livre, il y a une sorte de dispositif théâtral, en tout cas avec quelqu'un qui va jouer un rôle, qui est Churchill, qui doit poser. Et poser, c'est jouer un rôle. Et un spectateur qui est le peintre. Et à chaque fois, ça rejoue. Vous savez, ça rejoue la grande question, j'allais dire lacanienne, c'est-à-dire que me veut l'autre. C'est-à-dire, la grande question de Lacan, c'est qu'est-ce qu'il veut l'autre, pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il veut que je sois pour lui. Et c'est Churchill. Churchill qui va détester tellement son portrait que sa veuve va évidemment le détruire.
Dit-on.
Oui, c'est vrai, dit-on, mais en tout cas, on ne l'a pas retrouvé.
Vous étiez là pour le...
Non, c'est vrai. Non, 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 justement, la force de Philippe Forest, c'est de dire le vrai ou le faux, on s'en fout.
Ouais.
Quand il raconte un moment comment Churchill pourrait raconter une comptine, un moment quand il a un très grand malaise, même au moment où il meurt peut-être, il se met à raconter, et il y a une sorte de comptine qui sort de sa bouche, et c'est la comptine de sa fille, de l'enfant qu'il a perdu. Et Philippe Forest se met à chercher partout, il dit, en fait, je l'ai vu que dans un livre et pas ailleurs. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, c'est sûrement inventé, c'est pas grave. Ça reste là. Si ça perdure, si les gens le reprennent, c'est qu'en fait le mythe en avait besoin. Et donc c'est peut-être quelqu'un qui en effet passe du réel, dans tout ce qu'il y a de dégueulasse et d'horrible, pour en faire des mythes. Et le mythe, c'est peut-être la chose qui nous permet de pas nous effondrer.
Raphaël Léris.
La forme et la réflexion qu'il porte dessus s'inscrit dans un contexte éditorial qui est aussi cette espèce de mode un peu insupportable de prendre un bout de la vie de quelqu'un et puis d'en faire un récit plus ou moins bien fichu, plus ou moins bien réussi, enfin ce qu'on appelle les exofictions ou les biopics. Et c'est exactement ce qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas en faire un récit continu où lui aurait...
D'ailleurs, pendant 100 pages, presque, ils ne sont pas nommés, hein, les
protagonistes. Là, ils ne sont pas nommés, on comprend pas. Et ce dispositif aussi pose plein de questions sur la littérature. Et moi, je trouve ça passionnant, la manière dont il s'en empare. Et donc, voilà, il en fait aussi un objet littéraire, un objet de réflexion littéraire.
Philippe Chevillier, peut-être pour conclure.
Oui, juste, moi, c'est bien, parce que je comprends mieux maintenant ce qu'on peut éprouver face à ce livre en positif ou en négatif. Et c'est vrai que moi, je trouve justement, je pense, oui, exactement, c'est ça. Mais moi, pour moi, ça marche pas. C'est ça le problème, c'est que le biais qu'il a pris, ça marche pas. Et l'autre chose que je voulais dire, c'est que je trouve pas que ce soit très, enfin, en tout cas pour le lecteur, c'est pas un livre difficile d'accès.
Non, du tout.
Je trouve pas. Parce que Laurent disait complexe, c'est vrai qu'il y a une complexité, mais c'est un livre dans lequel on peut entrer facilement. Donc à tout le monde de juger si.
Par eux-mêmes, en lisant.
Et puis il faut voir l'épisode de The Crown aussi qui est très bien. grâce aux deux acteurs.
C'est quelle saison?
La première.
Mais j'en sais rien, je vous pose la question. Vous avez l'air épouvanté par ma question. Eh bien voilà, c'est celle-ci. Je reste roi de mes chagrins de Philippe Forest chez Gallimard.
Épisode-là.
Ah oui, vous êtes toujours en train de parler de Crown. Philippe Chevillier nous convertit. Hein, à regarder The Crown, dont la saison 3 arrive, viens-je d'apprendre, à l'instant. Alors, nous avons donc un coup de cœur. Alors, clarifions tout de suite les choses. Laurent Nunez a un homonyme qui travaille au ministère de l'Intérieur. Semble-t-il secrétaire d'État.
C'est lui qui a un homonyme.
Oui.
Remettez les choses.
Voilà, il y en a au gouvernement. Il y a donc, une sœur, une cousine, Sigrid Nunez. Il n'y a pas de lien de parenté.
Non, pas encore. Bon. C'est un écrivain.
Bon, Sigrid Nunez a écrit un livre qui s'appelle L'Ami, publié chez Stock, et c'est le coup de cœur de Raphaël Léris.
Et avant d'en parler, je voudrais commencer par faire une confession un peu honteuse. Je vais baisser la voix pour le dire. Je n'aime pas beaucoup les chiens.
Ouh là là.
Et je ne comprends pas qu'on puisse...
Vous disiez ? J'ai pas bien entendu. Vous n'aimez pas les chiens ?
Beaucoup les chiens. Je ne comprends pas. Pas tellement non plus. Je ne comprends pas qu'on puisse s'encombrer.
Elisabeth Philippe, si vous nous écoutez.
Ouais, je déjeune avec elle demain, je vais me faire tirer les oreilles.
Voilà.
Je ne comprends pas qu'on puisse s'encombrer d'un animal qui fait du bruit, qu'il faut sortir deux fois par jour. Tout ça me dépasse. Et cependant... Le livre de Sigrid Nunez, dont l'ami du titre n'est autre qu'un canidé, figurez-vous. Eh bien, ce livre m'a fait vaciller sur mes certitudes.
Oh là là.
Et quasiment donné envie d'en adopter un. Et quel canidé ? Il s'appelle Apollon. C'est un grand Danois, pas tout jeune. Il a la taille et l'aspect d'un poney, ce qui peut-être me le rend sympathique. Et la narratrice se retrouve bien embêtée quand, après le suicide de son meilleur ami, l'épouse numéro 3, lui demande de le récupérer et de s'en occuper. Et non seulement elle n'a pas d'intérêt particulier pour les chiens, elle-même, elle préfère les chats, mais en plus, cette écrivaine, prof de fac, elle habite un minuscule appartement dans un immeuble d'où les chiens sont bannis, ce qui pourrait lui valoir d'être expulsée de ce paradis des loyers contrôlés à Manhattan.
Ah, oui.
Alors, Sigrid Nunez s'amuse à nous faire croire que son intrigue tourne autour de cette question pleine de suspense. La narratrice se fera-t-elle virer de son immeuble à cause de son Danois ? Préférera-t-elle se débarrasser de celui-ci ? Mais bien sûr, ce n'est pas du tout de ça dont il est vraiment question, dans ce roman qui est étonnant, qui est brillant, qui parle magnifiquement du deuil, c'est un peu le thème de la soirée, et du deuil d'un ami, qui est un chagrin sur lequel on se penche assez rarement en littérature. Sa trame assez lâche permet à Sigrid Nunez des dégagements qui sont magnifiques sur la perte, autant que sur la littérature, à travers... Des vocations d'écrivains, d'écrivaines notamment, Virginia Woolf, Svetlana Alexievitch, Toni Morrison. C'est formidablement construit, c'est émouvant, ça se tient à distance du pathos, c'est très très drôle, ça n'hésite pas à flirter avec la rosserie. Et de surcroît, c'est merveilleusement traduit par Mathilde Bach. Bref, c'est l'ami, c'est vraiment le livre à offrir aux vôtres si vous leur voulez du bien.
Et vous allez donc prendre un chien. La nouvelle du jour concernant Raphaël.
Si mes enfants m'écoutent, c'est faux, je ne prendrai pas de chien.
Un Danois, ou un dog allemand, quelque chose de très très grand. Ça va être très pratique.
Un chien stupide.
France Culture. La dispute. Arnaud Laporte.
Le dernier livre à notre programme ce soir, c'est « L'été meurt jeune » de Mirko Sabatino chez De Noël, dans une traduction de Lise Kaya. C'est un premier roman qui nous entraîne dans un village des Pouilles où trois jeunes garçons de 12 ans essayent de lutter contre les vents contraires. Il y en a beaucoup. Il y a notamment les caïds brutaux de leur âge. Il y a le poids des histoires familiales, vraiment beaucoup de poids. Et puis, il y aura un événement qui va aussi changer leur regard sur le monde. C'est Lucille Comeau qui lit un extrait de ce livre « L'été meurt jeune ».
Quand on est seul, les choses nous arrivent tout entières. En théorie, cette règle devrait valoir aussi pour le bonheur. Mais elle n'y parvient pas à cause de ce mot « seul », autour duquel le bonheur qu'on a beau arranger, étirer, border, achoppe toujours. J'avais 12 ans et demi quand j'ai commencé à être seule, et depuis, je n'ai jamais cessé de l'être. C'est devenu une activité, plus qu'une condition. Ainsi, quand j'ai su qu'on allait la repêcher, je suis retournée dans mon village natal, exactement comme il y a quelques années, je l'avais quittée. Seule. Je regarde les deux plongeurs se préparer. L'un d'eux, malgré son arrogante prestance, a des fils gris qui assurent ses tempes. L'autre, un petit blond jeune et fluet, a le regard souriant, des yeux encore capables de briller d'étonnement. Pour le plongeur aux tempes grises, c'est juste un travail presque ordinaire. Mais pour le plus jeune, il doit s'agir de ce que c'est, dans son absurde évidence. Une moissonneuse batteuse noyée sous les eaux de l'Adriatique depuis les années 60. Cela arriva durant l'été 1963. Nous avions 12 ans, et nous étions tellement petits, alors, que nos corps ne s'aventuraient guère au-delà du t-shirt et du short dont nous étions vêtus. Cette année-là, les Beatles franchirent le seuil des studios Abbey Road et 13 heures après, offrirent au monde leur premier 33 tours. Le pape Jean XXIII mourut au bout de presque 5 années de pontificat et 3 jours d'agonie. Martin Luther King annonça à l'Amérique qu'il avait fait un rêve. John Fitzgerald Kennedy perdit son poste de président et la vie à bord d'une limousine. Un éboulement provoqua une inondation qui effaça de la carte d'Italie Longue-Garonne et ses habitants. Mais tout cela existait dans les journaux, à la radio, et pour les rares qui l'avaient, à la télévision. Ce qui existait vraiment dans le monde, pour nous, c'était les ruelles de notre village.
Donc le début de l'été meurt jeune de Mirko Sabatino, traduction Lise Kayak vient de nous lire Lucille Como. Ça pose des choses, ça nous dit déjà que le narrateur revient et donc que c'est une narration d'après coup. On va en parler. Premier tour de table, Philippe Chevillet.
Donc pour moi c'est un peu voilà, c'est une fable tragique d'une jeunesse fauchée par la violence primitive des hommes.
Laurent Nunez.
Une histoire d'amitié qui finit mal, qui ne vaut peut-être pas plus qu'un épisode de Netflix.
Il y en a des bons, si j'ai bien compris.
Il y en a des bons, ça fait même livre. Mais...
Raphaël Léré, ça.
Alors, j'ai trouvé que c'était cousu de fil blanc, que ce soit l'intrigue ou les images, dont aucune n'est très surprenante. Les cheveux sont de jais, la chaleur est implacable et la peau est de lait.
Bon, on voit un peu l'échiquier là dans cette dispute. Donc c'est Philippe Chevillet qui va commencer à nous parler de l'été meurt jeune.
Oui, parce que moi justement je trouvais que ce roman d'apparence vintage justement avait une façon de renouveler un petit peu le genre du roman rural et de la tragédie. D'abord parce que souvent quand on voit des romans dans le sud de l'Italie, c'est l'histoire de mafia, là c'est une histoire de vendetta mais qui s'impacte, conclue par des adolescents et qui normalement devraient les protéger des plus grands qu'eux, et finalement ils vont se rendre compte qu'ils doivent se protéger pas seulement des plus grands qu'eux mais des hommes, vraiment des adultes. Je trouve que l'histoire est assez bien ficelée. Je suis pas tout à fait d'accord sur le fait que ça soit cliché parce que il y a pas tant de descriptions que ça de paysages, c'est pas tellement exotique. Quand on est sur la falaise au bord de la mer, c'est plutôt le vide, c'est des ciels blancs. On n'est pas vraiment dans une Italie du sud avec des tomates accrochées au mur. C'est vrai que c'est chargé. C'est vraiment une tragédie à l'italienne, archaïque, primitive. Avec ses aspects sanglants, alors on se bat, il y a des viols, on crucifie des chiens. Alors ça, je pensais que ça
devrait plaire à Raphaël. On les aime pas, mais elle leur veut pas du mal pour autant.
Non, bon,
on ne sait pas.
Voilà, excusez-moi. Moi, je trouve qu'il y a quand même un style qui est plutôt un style lyrique, mais assez contenu. Qu'on va à l'essentiel, qu'on évite le pittoresque. Et puis j'aime bien moi je trouve qu'il y a une évocation des personnages et de ces adolescents. Moi je trouve qu'ils existent réellement, qu'ils sont touchants. Ils sont touchants dans leur inaboutissement parce que justement c'est l'intérêt de ce livre, c'est justement on voit ils ont 12 ans, ils sont jeunes au départ, oui. Et on les voit On sait qu'ils vont pas, on comprend très vite qu'ils vont pas grandir. Et ça, je trouve ça beau comme histoire. Voilà. Et sans compter que, évidemment, ça met pour le coup, alors après, on va en reparler, mais une mise en abîme du côté archaïque de ces villages, du patriarcat, etc. Mais voilà. Donc pourquoi ce roman, a touché beaucoup en Italie, visiblement, et moi, m'a touché.
Raphaël Léris, qui semble très hostile, a donc la parole.
Alors, je vais revenir à ce que vous disiez sur le patriarcat, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un livre qui est un petit peu écrit dans un air du temps, en se disant je vais m'attaquer au patriarcat, puisque c'est ce qu'il faut faire en ce moment, s'attaquer au patriarcat, et qui prend des ingrédients assez identifiés. Alors là, par exemple, dans le passage qu'on a entendu lui par Lucille Comeau, il y a même juste le fait de dire c'était l'été 63, l'année 63, il s'était passé telle et telle et telle chose, tout ça c'est des manières tellement clichés de situer les époques, de rappeler où on est. Enfin, j'ai l'impression d'avoir lu ça un milliard de fois, et les personnages aussi. Alors vraiment, j'ai pas du tout envie de divulgâcher, parce que par ailleurs, il y a une efficacité dans le texte. Enfin, vraiment, il file tout droit. C'est une tragédie, elle fait tout droit. Donc moi, j'ai vu arriver les choses, parce que c'est pas très subtil dans la manière de les amener, mais on va jusqu'à la fin. Et donc, il y a un personnage de prêtre dont on voit, autour duquel on voit monter la tension. Et j'ai l'impression qu'il y a vraiment pas beaucoup d'inventivité dans la manière de se dire je vais m'attaquer aux méchants, au patriarcat, et en faire un roman terrible d'une innocence perdue.
Bon, Laurent Nunez, à présent, on parle de L'été meurt jeune.
Vous savez, c'est le problème des livres qu'on a la chance de lire en traduction. On se dit, comment ça se fait qu'ils sont arrivés dans le circuit français? Est-ce qu'ils reflètent tellement bien le réel qu'ils sont arrivés jusque-là? Ou alors est-ce qu'ils reflètent tellement l'idée que nous avons des Pouilles et de l'Italie que du coup on nous les donne en disant ça va finalement, vous allez acquiescer. Et là, en effet, comme disait Raphaël, il n'y a rien de dérangeant. C'est-à-dire, on a l'impression que c'est la société qu'on connaît. C'est la société que dans ma tête, je me faisais bêtement de l'Italie, c'est-à-dire une sorte de patriarcat, de place des femmes très étrange, de vendetta, ajouté à un syndrome ultra contemporain de la folie des adultes. Mais en tout cas, voilà, c'est ça qui était un peu embêtant, c'est que d'un coup, c'est vraiment comme le soir quand je suis trop fatigué, je regarde Netflix comme certains, et je regarde, vous savez, c'est ces films qui sont presque de l'easy listening, c'est-à-dire des choses qui sont là pour occuper une heure ou deux, qui sont très bien faits. Il y a les effets spéciaux, la narration est là et tout, mais une fois qu'on éteint, une fois qu'on coupe l'ordinateur, il ne reste rien. Et moi, j'étais emballé par l'histoire, j'ai pas été surpris par l'histoire. J'étais emballé, j'ai suivi cette histoire d'amitié, cette histoire de vengeance, ces morts, cette vengeance un peu ratée d'ailleurs. Mais je m'attendais à tout ça. Donc je gâche pas mon plaisir est là. Hein.
Vous j'ai boudez pas.
Plaisir. Oui, pardon, je boude pas mon plaisir qui était là, réel. Il sait raconter des histoires. Pas d'une manière qui fait qu'on identifie clairement que c'est tel écrivain et pas tel autre. Il s'est raconté des histoires comme, hélas, comme beaucoup de gens maintenant. Ce qui veut dire que plus les gens savent un savoir, voilà,
ouais.
Moins ce savoir est intéressant. Et donc, voilà, du coup, voilà, j'ai pris du plaisir, mais pas plus. Voilà, j'ai refermé le livre. Voilà, les Pouilles n'ont pas changé dans ma tête.
Bon, les Pouilles dans votre tête. très beau jeu de mots de Laurent Nunez, involontaire, bien sûr. Alors, je vous remercie de ne pas avoir divulgâché, parce que moi, j'ai pas eu le temps de finir ce livre. Hein. Les semaines sont chargées et que moi, j'ai envie de le lire jusqu'au bout, parce que j'étais pris, moi. Parce que quand vous dites là, l'année 63, là, ce qu'on a entendu tout à l'heure, sur moi, ça fonctionne. Alors, j'ai peut-être pas lu assez de milliers de livres. Vraiment à vous, ma chère Raphaël. Non, il y a une efficacité. C'est pas du tout. Moi, ça me met pas à distance. Et moi, j'ai envie de, comme j'ai pas fini, j'ai envie de suivre le trajet de ce trio là d'amis et de savoir qu'est-ce qui. Enfin bon, j'ai envie de continuer parce qu'il y a une langue alors qui est effectivement très simple, hein, mais que je trouve encore une fois. Alors, c'est vrai que c'est un peu gênant de dire à chaque fois efficace. Parce que ça dit quelque chose, c'est pas Philippe Forest, enfin, il y a un monde pour moi entre les deux types d'écriture, mais en effet, ce que je ressens surtout pour l'instant, c'est une forme de tendresse que je trouve, touchante, enfin, moi, ça m'émeut plutôt. Philippe Chevillet?
Alors d'abord, non, je voulais dire à Laurent déjà qu'il est né en 78, donc déjà il n'a pas vécu.
Ah mince.
Donc c'est pas voilà. C'est
ah
pas
non, c'est bien. C'est bien du coup.
Du coup, c'est bien. C'est
selon Laurent.
La deuxième chose, c'est que moi, j'ai pas le sentiment qu'on ait tant de livres avec des histoires réussies que ça. Moi, j'en balance pas mal que justement qui veulent être des livres qui racontent des histoires et que ça nous intéresse
pas
du tout. Il y en a quand même beaucoup. Donc c'est déjà un point. Alors je trouve que Raphaël est un peu injuste sur les personnages parce que le patriarcat c'est une chose, mais les personnages des pères sont pas inintéressants, et notamment celui qui, il y en a un qui sort d'un asile et qui est un personnage vraiment intéressant. Il y a le père de Primo, du narrateur, qui n'est plus de ce monde, et donc le jeune Primo raconte à sa sœur des histoires. Oui, c'est du violon.
Raphaël Leiris mime les violons.
Absolument.
Je donne les images,
elle qui n'aime pas les chiens, elle n'aime pas le violon non plus. Donc c'est normal.
Elle n'a pas de cœur.
Elle n'a pas de cœur. Vous savez.
Et c'est pas forcément des histoires que moi ça me fait pas pleurer, mais c'est amusant l'idée des chanteurs de variété, de Mastroianni qui vient dîner, tout ça, ces histoires qui se racontent. Et il y a dans le personnage aussi du prêtre. Je ne le dis pas pour.
Ouais, merci.
Gâcher. C'est quand même pas inintéressant non plus le personnage.
Je le vois venir, mais bon.
Mais c'est vrai que c'est une forme de grosse cavalerie tragique, parce qu'on a vraiment tout. On a mais j'aime bien d'une certaine façon de justement pas jouer avec.
Il joue pas au plus malin, en fait, Mirko Sabatino. Il trace sa route. Alors, elle est peut-être trop tracée et trop balisée, et le fil blanc dont parle Raphaël Leiris. Mais moi, j'aime bien parfois le suivre, ce fil blanc. On a la chance, nous, de lire des livres extrêmement différents. Et moi, je trouve que ça fait du bien, de temps en temps, de lire un Mirko Sabatino. Je pourrais pas mal dire son nom. Enfin, c'est son premier. Pardon, je vous ai interrompu, Philippe.
Non, la route toute tracée. Voilà, je vous écoutais, j'adhérais à tout ce que vous disiez.
Ah, c'est beau, voilà, c'est beau, cette communion d'esprit. Mais on n'a pas convaincu Raphaël Leiris.
Non, ce que dit Philippe est vrai sur les personnages de père, enfin surtout sur celui qui est dépressif, très intelligent. Lui c'est une vraie surprise dans le texte, sa place, ce qu'il dit, dans la manière dont les enfants le regardent. Après les mères, il y en a une, on sait pas pourquoi c'est une ancienne actrice. Ah bah parce qu'on est dans l'Italie des années 60, donc c'est une ancienne actrice qui se retrouve à la campagne séquestrée par son mari.
Elle a le droit. Non, mais,
il y a des choses.
La mère bigote qui est
la mère bigote, qui est intéressante.
Le petit Damiano qui est
vraiment
un petit peu
dans les couilles de la tête de Laurent.
C'est vrai que il y a une forme de pittoresque, mais qui n'est pas, je suis désolé, mais quand on regarde justement Netflix, on va pas arrêter de parler de Netflix ce soir.
On parle d'autres plateformes.
Ou d'autres, voilà, oui.
Quand on regarde France Télévisions, le service public.
On a aussi des histoires dans le sud de l'Italie, encore une fois avec la mafia. Et je pense que ça veut raconter quelque chose aussi sur le caractère vraiment archaïque. Alors c'est peut-être facile, mais c'est quand même moi j'aime bien qu'on revienne à cette réalité là de cette violence et qui se transmet et qui arrive puisque en fait on parle dans ce livre beaucoup des adolescents de 12 ans et puis des adultes dont certains vont commettre des actes répréhensibles.
Ah oui.
Mais entre les deux, il y a ces espèces d'atroces gamins aussi qui doivent avoir 16-17 ans, qui sont aussi assez horribles, et cette espèce de fatalité de la violence et qui, au côté un peu désespéré, et la fin est pas mal, alors je ne vais pas vous la dire, c'est tentant, mais je ne vais pas vous la dire.
Mais non. Laurent Nunez, le mot positif de la fin, bien sûr.
Non, il n'y aura pas de mot positif.
Si.
Non, c'est dur.
C'est parce qu'il a dit qu'il avait pris du plaisir en même temps, donc...
Non, il y a quelques trucs qui m'a étonné. C'est un moment, mais c'est compliqué. On doit rester abscons parce qu'on peut pas dire ce qui va se passer. Mais la fille, la sœur d'un des gamins porte un nom, et je me suis rendu compte très tard que ce nom subitement était son destin. Voilà, je trouve que je sais pas si c'est fait exprès en italien ou en français et tout. C'est un peu raté cette chose-là.
Bah non, si vous en êtes rendu compte tard, c'est que j'ai réussi.
Oui.
Raphaël Leiris s'est rendu compte à la page 2, visiblement, vu les grands.
Parce qu'elle est plus maline.
Mais parce qu'elle lit des milliers de livres.
Moi aussi, parce que Laurent, moi, je viens de le réaliser.
L'avoir lu, imaginez.
Ça ferait pas mal, parce que...
D'accord.
Finalement.
Bon, l'été meurt jeune, faites-vous votre avis par vous-même en lisant ce livre de Mirko Sabatino chez De Noël, dans une traduction de Lise Kaya. Avant de conclure cette émission, le jeu de la dispute avec David Dana qui nous rejoint comme chaque soir pour nous rappeler dans un premier temps la question d'hier et nous donner sa réponse. David.
Quel est le nom de naissance du Gréco? La réponse est Domenikos Theotokopoulos.
Ce soir, des DVD du film Zombie Child de Bertrand Bonello sont à gagner en répondant à quelle question?
Sur quel pays caribéen a été tournée une partie du film Zombie Child?
Votre réponse ainsi que vos coordonnées postales sont à envoyer à auditeurfc@radiofrance.com. Cette émission a été préparée par Issa Tundoy, Lucille Como, Boris Pino et David Dana. Prise de son ce soir, Jérémy Kaufmann. Réalisation, Alexandre Faugeron. Toutes les informations sur nos disputes sont à retrouver sur le site internet franceculture.fr à la page de la dispute, page sur laquelle vous pouvez réécouter ou podcaster nos émissions. Demain, 19h, dispute cinéma en compagnie de Lucille Como, Julien Gester et Jean-Christophe Ferrari. Nous parlerons de Joker, de Todd Phillips, de Martin Eden, de Pietro Marcello, Chambre 212 de Christophe Honoré. Et je donnerai mon coup de cœur à L'angle mort de Patrick Mario Bernard et Pierre Trévidic.
France Culture, l'esprit d'ouverture.